Bonsoir, c'est l'un des 6 pays fondateurs de l'Europe, avec notamment la France qui votera dans un mois, et puis l'Allemagne, ce sera au mois de septembre. Les Pays-Bas, c'est donc ce mercredi, vote demain, avec face à face deux hommes, le Premier ministre Mark Rutte, et puis face à lui, Geert Wilders, le leader du parti anti-islam, anti-système, anti-Europe. Hein. Est-ce que ce scrutin fait figure quelque part de baromètre, hein. Est-ce qu'il traduit le risque politique, hein, en Europe, compte tenu de la montée des partis extrémistes, des partis populistes? En clair, hein, quelque part, ce scrutin crucial aux Pays-Bas, est-ce que c'est le premier stress test en Europe? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, on va partir dans un instant retrouver Ben Aouda Abdedaïm, donc à La Haye, siège des institutions politiques néerlandaises. Avec nous également dans ce studio à Paris, c'est Jérôme Julien Marcy, chef économiste de l'assureur Crédit Coface. Avec nous, Henrik Klinker, qui est partenaire chez Vacor, une société de conseil pour les entreprises dans les domaines de l'organisation. Il est franco-néerlandais, c'est l'ancien directeur général d'ABN AMRO et qui préside le Business Club néerlandais. Ça se prononce comment là-bas chez vous ?
Le Business Club, oui. Nederlandse Zakengemeenschap in Frankrijk.
Voilà, je ne peux pas cacher qu'il est néerlandais, notre ami. Jean-Noël Vieille, directeur de la gestion chez 360XSAM. Et Jérôme Sainte-Marie, président de Pollingvox. Alors, je vous le disais, donc direction les Pays-Bas pour retrouver Ben Aouda Abdedaïm. Ben Aouda, veille de scrutin. Et c'est vrai que la campagne s'est terminée quand même dans la tension. Il y a eu cette histoire, évidemment, cette brouille diplomatique avec la Turquie. Et puis ce débat télévisé hier soir, extrêmement tendu, donc entre Mark Rutte, le Premier ministre, je le disais, et Geert Wilders, donc le chef du PVV, c'est-à-dire le leader extrémiste, le leader populiste.
Oui, un débat où c'était finalement une opposition entre deux styles de gouvernement, deux idées de ce que doit être, de ce que doivent être les Pays-Bas de demain. Le Premier ministre Mark Rutte, qui était clairement dans l'idée qu'il fallait tenir bon, démontrer ses qualités d'homme d'État, d'homme qui gouverne. À un moment donné, il lui a dit, Mark Rutte a dit à Geert Wilders, moi je ne suis pas assis sur mon canapé à tweeter des idées en l'air. Je suis là pour gérer les affaires de l'État. Et c'était tout le propos de Mark Rutte face à son opposant, son adversaire résolu, qui lui dit, qui lui a répliqué, en fait, vous ne gérez pas les affaires de l'État, vous avez délaissé les intérêts nationaux, et moi, si je deviens le chef de ce gouvernement, je rendrai les Pays-Bas aux Néerlandais.
Comment ça fonctionne là-bas, les sondages? On va voter donc demain mercredi. Est-ce qu'on a déjà des tendances où c'est interdit? Dites-nous, Ben Aouda, ce qu'on sait actuellement.
Ah non, on s'en donne vraiment à cœur joie jusqu'à la dernière minute. Il y a une synthèse de la demi-douzaine d'instituts de sondage qui est publiée. Et étant donné l'extrême fragmentation du paysage politique néerlandais, il est difficile d'en tirer des conclusions pour l'instant. Mais en tout état de cause, selon les toutes dernières enquêtes, il semble que le parti du Premier ministre soit en tête, même assez nettement. Toutefois, une analyste politique proche des sociaux-démocrates nous invite à beaucoup, beaucoup de prudence, étant donné les ratés des instituts de sondage de 2012 et finalement le fait qu'il y ait entre 11 et 14 partis qui puissent être représentés au sein de ce nouveau Parlement, ça conduit à beaucoup de prudence dans l'interprétation des dernières enquêtes d'opinion disponibles aujourd'hui.
Bon, restez bien là-bas. On va vous retrouver dans quelques minutes avec Aline Dany, donc, qui vous accompagne à La Haye, aux Pays-Bas, Ben Aouda Abdedaïm. Henrik Klinker, donc, chef d'entreprise, de quoi on a parlé durant cette campagne? J'ai l'impression qu'on a parlé d'islam, on a parlé d'immigration, un petit peu de social, c'est ça? C'était ça les grands thèmes de campagne?
Oui, moi, je pense que, comme dans tous les pays, il y a une crise identitaire. Les Pays-Bas sont un pays qui connaissent un taux de chômage qui est relativement bas, 5%. Comparé à la France. Donc, pour moi, le swing n'est pas là. C'est plutôt une crise identitaire, la peur de voir les élites qui parlent de mondialisation, un peu ce qui se passe en France. Et ce qu'on voit, c'est effectivement, il y a une partie de la population qui n'a plus confiance dans l'establishment et qui dit, voilà, on est chez nous, l'Europe s'occupe trop de nos affaires, etc. Donc, il faut que ça change. Ouais. Et c'est un ressentiment qui existe. Et donc, voilà.
C'est vrai, Julien Marcy, chef économiste de l'assureur Crédit Coface. Comment se porte l'économie néerlandaise? Elle se porte bien.
C'est vrai qu'à première vue, la situation est plutôt bonne. Bon, comme les autres économies de la zone euro, les Pays-Bas ont bien sûr souffert de la crise des dettes souveraines. Et puis, comme les autres, elle est sortie de crise à peu près au milieu de l'année 2014. Et aujourd'hui, ses performances sont plutôt même meilleures que la moyenne de ses voisins européens. L'année dernière, on avait une croissance légèrement supérieure à 2%. Nous, chez Coface, on anticipe à peu près la même chose pour cette année. Les faillites d'entreprises ont chuté de près de 20% l'année dernière. Et puis le taux de chômage, vous l'avez dit, est à un niveau relativement bas. Donc c'est vrai qu'à première vue, la situation est bonne, d'autant plus que les finances publiques ont été assainies. Mais c'est justement peut-être là que le bât blesse.
Que le bât blesse et que peut-être justement ce programme de rigueur, donc, imposé par Mark Rutte, le Premier ministre, on y reviendra notamment tout à l'heure avec Ben Aoud Abdedaïm, avec notamment la retraite à 67 ans, mais pas que, justement, ça suscite peut-être une certaine contestation. Oui, Henrik Klinkert, Jérôme Sainte-Marie, les Pays-Bas, c'est un pays prospère, vient de nous dire Julien Marcy, réputé aussi pour son état-providence, un pays quand même qui est très ouvert sur le monde, hein, extrêmement tolérant. Qu'est-ce qui justifie une telle montée du PVV de Geert Wilders, Henrik Klinkert?
Bonne question. Mais encore une fois, c'est cette distance entre l'establishment et le peuple, si je peux dire, qui crée ces tensions. Il y a eu le référendum il y a quelques années où effectivement les Néerlandais
avaient dit non, comme les Français.
Toujours eu l'impression de donner beaucoup à l'Europe et de ne pas recevoir beaucoup. Mais pour les Pays-Bas, l'Europe, elle peut pas vivre sans l'Europe. C'est un pays avec un marché ouvert qui exporte, importe beaucoup. C'est le commerce.
Et c'est là le pays fondateur de la communauté européenne, devenue l'Union européenne dans les années 90.
Tout à fait. Sûr, ouais. Tout à fait.
Jérôme Sainte-Marie.
Oui, je me trompe pas en disant qu'il y a eu aussi un référendum sur la ratification sur l'entrée de l'Ukraine en Europe.
Oui,
qui justement avait été arrivé à un résultat négatif.
C'était l'an dernier, exactement.
C'était une initiative de quelques personnes qui ont souhaité qu'il y ait un référendum aux Pays-Bas. Et effectivement, le nom l'avait.
Voilà, donc c'est un premier signe en quelque sorte du fait que justement cette ouverture, cet élargissement en quelque sorte de l'Europe n'était pas souhaité par une majorité du Pays-Bas. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, y compris pour les répercussions en France dans les prochaines semaines, c'est le fait que désormais il y a des crises politiques qui apparaissent dans des pays prospères. Au fond. Tant que c'était, si j'ose dire, la Grèce ou des pays comme ça, on se disait, bon, c'est les mauvais élèves de la classe européenne, tout ça est tout à fait spécifique. Sauf que là, aujourd'hui, on a l'AFD en Allemagne, qui est une partie de l'extrême droite, qui donc progresse fortement.
Même si elle est en reflux quand même ces dernières semaines. Mais vous avez raison, elle a pu progresser.
Elle a émergé à la droite du CDU, qui est quand même pas un pays, un parti particulièrement modéré. Ensuite, on a UKIP et puis le Brexit en Grande-Bretagne, qui était aussi montré comme exemple de la réussite économique, du libéralisme, etc.
Donc, Trump aux États-Unis.
On ne peut pas raconter la même histoire aux électeurs français que pour la Grèce. Et puis maintenant, on a le Pays-Bas que les Français connaissent moins, mais qui effectivement est prospère. Donc là, on voit effectivement, c'est la preuve ultime en quelque sorte de cette progression aux Pays-Bas de. Je ne sais pas si on peut qualifier ça d'extrême droite, mais une forme de populisme de droite, disons, de la crise identitaire que connaît toute l'Europe. Toute dernière chose.
On va demander d'ailleurs dans un instant à Ben Aoud Abdelnaïm comment qualifier d'ailleurs M. Wilders. Allez-y.
Moi, autant ça m'intéresse, et je peux parler, si vous voulez, des conséquences sur la France. Je ne suis pas un spécialiste de la vie politique aux Pays-Bas. Il me semble quand même qu'il faut insister sur le fait qu'on a un système à la proportionnelle. Je crois qu'il faut 0,7% du corps électoral pour avoir, enfin des exprimés, pour avoir un siège. Donc c'est vraiment très émietté. Et que le parti, le PVV, en fait, aurait. Le vrai enjeu, c'est de savoir s'il arrive en tête ou pas, en réalité.
Effectivement.
Mais il est très, très loin de la majorité.
On a fait un effet psychologique. Je pense que ça aura une incidence sur les élections en France. Je pense que Mme Le Pen sera là pour dire, regardez, Wilders, il est arrivé en premier. Mais Wilders, si vous voulez, le monde des affaires ne craint pas Wilders.
On va en reparler dans un instant, justement. Non, simplement, j'avais encore une question à vous poser quand même, Jérôme Sainte-Marie. Est-ce qu'il y a un lien entre l'économie et le vote populiste quand même? Là, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est finalement, non, il n'y a plus de lien.
Alors, il faudrait savoir, parce que
l'économie n'est pas forcément la raison majeure des votes populistes.
Ce n'est pas uniquement ça, il y a une dimension culturelle, bien entendu. Après, il faut regarder pays par pays, parce que les bons chiffres globaux sur un pays ne signifient pas que d'un point de vue relatif, entre les catégories sociales, il n'y ait pas des distorsions très fortes et qu'il n'y ait pas des phénomènes de paupérisation relative, comme on disait autrefois, et pas seulement des phénomènes de paupérisation absolue, comme dans le sud de l'Europe et comme en France pour des catégories entières. Certains se disent que ça progresse. Au fond, vous savez, les grandes périodes de contestation sociale en France, c'était plutôt les années 60-70, à l'époque où la progression du pouvoir d'achat de l'ensemble de la population était très forte, mais où se créaient des tensions entre les groupes.
Julien Marcy-Coffas.
Ce qu'on observe quand même au niveau global, et c'est quelque chose de très simple et de très évident, c'est quand même que depuis la crise, les risques politiques augmentent dans tous les types de pays, à la fois émergents et dans les économies avancées, avec justement avec la matérialisation des problèmes économiques. Donc il faut quand même tenir compte d'un certain nombre d'indicateurs économiques comme les inégalités de revenus, la croissance du PIB, le taux de chômage, pour mesurer un peu ce degré de frustration sociale. Ensuite, alors là, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est une condition nécessaire, mais qui est loin d'être suffisante. Et c'est vrai que dans le cas notamment des pays européens, ce qui ressort, nous notamment dans notre échelle de risque qu'on va publier justement sur le risque politique la semaine prochaine, c'est que quand on fait une analyse aussi textuelle de tous les programmes politiques des différents partis, on observe aussi dans beaucoup de pays européens que la montée des thèmes comme la sécurité augmente et joue un rôle aussi dans cette montée des risques.
Et que sur votre nouvel indicateur que vous avez mené chez Eurostat auprès de 163 pays, on voit les Pays-Bas qui se placent au sein de l'Europe dans la fourchette haute de l'indice du populisme. Hein.
Alors le premier c'est le Royaume-Uni, le deuxième la France, ensuite la Suisse et en quatrième les Pays-Bas.
Jean-Olivier, on va retrouver Benahouda dans une poignée de secondes à La Haye. Simplement, ce scrutin, comment est-ce qu'il est surveillé par les marchés? Comment est-ce que vous le surveillez, vous?
Alors d'abord, c'est la première rencontre en fait qui va être une longue rencontre politique en Europe, puisque ça va être les premières élections en 2017, et ensuite il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a le référendum sur la Catalogne en Espagne, et puis il y aura l'Italie début 2018. Donc en fait, on rentre dans une analyse qui va être effectivement assez difficile, où je pense que les marchés, d'ailleurs on l'a déjà intégré, avec cette montée effectivement du risque politique que l'on voit très bien sur les taux, puisqu'il faut rappeler que les taux l'OAT, le taux sans risque français, est passé quand même de 0,6 fin 2016, en 3 mois, même pas, et on est aujourd'hui à 1,10, et l'ensemble des taux de la zone Europe sont en train de se stresser un petit peu. Et c'est vrai que la question qui est posée sur le vote de demain, c'est quand même le parallélisme. Enfin, c'est évidemment c'est pas la même chose, mais est-ce qu'on va parler d'une exit, donc de la sortie
de la zone euro,
de la zone euro de la Hollande, ce qui serait quand même très problématique. Et il y avait un baromètre fait par la communauté européenne en 2015, et les 60% quand même des Pays-Bas, c'était très proche du taux anglais, sont effectivement veulent être en dehors de l'Europe. Donc c'est pour ça que le rendez-vous demain va être quand même un rendez-vous relativement important.
Oui, alors Benahouda Abdedaïm, justement, toujours depuis La Haye. On va reparler du Nexit dans un instant. Est-ce que Geert Wilders, oui, il souhaite la sortie de la zone euro des Pays-Bas. Simplement, Geert Wilders, qu'on comprenne bien, de quoi parle-t-on? Alors, j'ai lu pas mal de choses. Il compare le Coran à Mein Kampf d'Adolf Hitler. Si je résume son programme, il veut fermer les mosquées, interdire le Coran, fermer les frontières néerlandaises, sortir donc les Pays-Bas de l'Union, de la zone euro. Comment on le décrit finalement ce monsieur? Parce que je veux bien qu'on dise qu'il est populiste, etc. Mais enfin, on a clairement affaire à un islamophobe, hein, anti-système, anti-Europe, anti-tout quelque part.
C'est vraiment une spécificité néerlandaise. Le slogan de campagne de Geert Wilders, c'est Stop Islam. C'est le thème central de sa campagne. Beaucoup moins, finalement, beaucoup plus d'avant que les questions européennes. Et même le comparer, par exemple, à une approche, entre guillemets, populiste comme celle de Donald Trump n'est pas quelque chose de pertinent. C'est ce que nous expliquait tout à l'heure la directrice générale de l'Institut néerlandais des relations internationales. Geert Wilders ne propose pas des mesures protectionnistes. Il s'inscrit dans des thèmes de campagne de protection de l'État-providence. Il parle beaucoup de l'assurance santé, de relever les retraites. Il ne propose pas des mesures protectionnistes. Et même pour ce qui concerne la sortie de son pays de l'Union européenne, il a levé le pied considérablement ces derniers jours. Il a redit que c'était son objectif lors de son débat face au Premier ministre hier soir. soir. Mais encore une fois, il n'insiste plus autant que cela sur cette question. Son but principal, c'est vraiment de démontrer qu'il y a un problème fondamental de cohésion nationale dans ce pays et que le seul moyen de le traiter, c'est d'aller frontalement contre les musulmans et contre la place qui, selon lui, tient l'islam dans ce pays, quitte à parler d'une cinquième colonne en marche dans ce pays. Voilà, c'est ça son propos central, bien davantage finalement que les questions économiques ou sociales.
Oui, il s'en prend aux Marocains, donc vecteurs de criminalité. Enfin, c'est pas moi qui le dis, bien entendu, c'est la deuxième communauté étrangère derrière les Turcs et devant les Molucois. Les musulmans, c'est 5% à peu près de la population des 17 millions d'habitants aux Pays-Bas. Encore un mot quand même, Benaoud Abdelhaïm, puisqu'on parlait quand même de l'État-providence, hein, quand même, qui est une des spécificités des Pays-Bas. L'État-providence a failli quelque part. Comment jouer le facteur économique, la montée des inégalités, la mise sur le côté de ceux qui sont victimes de la mondialisation quelque part durant ce scrutin, durant cette campagne?
On ne perçoit peut-être pas suffisamment le fait que les Pays-Bas ont traité de façon très particulière la crise de 2008. Il y a eu un redressement très important des comptes publics à marche forcée. Normalement, cette année, on va passer en dessous de 60% de dette publique et ce remède de cheval assez exceptionnel a mis effectivement toute une partie de la société néerlandaise sur le côté. C'est un diplomate européen qui nous disait à un moment donné, il y a un ressentiment qui se crée vis-à-vis de la politique menée par ce gouvernement depuis 5 ans. L'idée que trop de précarité à un moment tue l'initiative. Et le fait par exemple que 75% des femmes qui travaillent dans ce pays le font à temps partiel montre finalement l'extrême flexibilité de cette économie néerlandaise qui effectivement a conduit un certain nombre de ses citoyens à ne pas suivre le rebond économique en cours, sachant que effectivement il y a quelque chose d'assez étonnant de voir ce ressentiment alors qu'on s'achemine vers une croissance économique qui va dépasser les 2% probablement cette année, ce que beaucoup de pays européens aimeraient connaître.
Oui, Hendrik Klinkert, donc partenaire chez Vacor, président du Business Club néerlandais. Est-ce qu'il ne joue pas aussi sur le fait, et question que je poserai aussi à Jérôme Sainte-Marie, c'est intéressant aussi dans le contexte aussi français, que gauche et droite, aux Pays-Bas finalement, n'ont plus vraiment de différence de programme quelque part.
Ce qui est intéressant de savoir, les premiers 7 partis aux Pays-Bas, dont le PVV, les 6 autres, ils sont tous pro-européens, etc. Après, c'est plutôt une tendance. Est-ce que ce doit être une Europe uniquement en défense, écologique, etc. Après, il y a un peu le truc, est-ce que ça doit être plus social, moins social, etc. Mais ils voient tous l'intérêt d'une Europe forte. Donc le problème n'est pas là. Moi, je pense qu'aux Pays-Bas, ce qui s'est passé, c'est que les Pays-Bas, de par leur histoire, ils ont toujours laissé les communautés vivre leur vie. On en parlait tout à l'heure. Moi, j'étais très étonné dans les années 70, quand il y avait déjà les élections municipales, qu'on distribuait des tracts dans langue arabe. Je pense que ça n'a pas favorisé l'intégration de tous ces gens-là. À l'époque, ça partait d'un bon sentiment, mais je crains que cette intégration n'a pas eu lieu comme il le fallait.
En tout cas, le côté pro-européen, assez unanime face évidemment à Geert Wilders. Tiens, témoignage, c'est Benaoud Abdelhaïm et Eline Dany qui l'ont rencontré aujourd'hui. Stientre van Veldhoven, elle est députée centriste du parti D66, un plaidoyer pro-Europe. Écoutez là, on revient tout de suite.
Nous sommes un petit pays avec une économie très ouverte. 1 sur 5 de nos jobs dépendent de l'Europe. Donc c'est très clair que les Pays-Bas sont plus forts avec l'Europe que sans l'Europe. Et je pense que ça vaut pour tous les pays européens. C'est une illusion que dans un monde de plus en plus incertain, un de nos pays prouvera plus fort que la Russie ou les États-Unis. C'est ensemble, c'est en étant réunis qu'on sera fort et qu'on peut défendre nos intérêts dans le monde.
Voilà ce qu'elle explique un peu en quelque sorte, Jérôme Sainte-Marie, c'est irréversible. Hein. C'est un peu ce que disait Mario Draghi à propos de l'euro la semaine dernière.
C'est son point de vue, c'est pas le point de vue des Suédois, par exemple, qui ont une croissance assez forte. C'est pas le point de vue des Britanniques, qui étaient le bon exemple. Souvenez-vous, on nous parlait sans cesse des jeunes qui partaient, des ambitieux qui partaient réussir leur destin en Grande-Bretagne. Et bien la Grande-Bretagne, cette cette espèce d'Eldorado libéral aujourd'hui ferme la porte à l'Europe. Donc si vous voulez, la roue de l'histoire en quelque sorte tourne dans le hésite. Au fond, on a vendu largement l'Europe aux Français en 92 puis en 2005, non seulement par les avantages concrets qu'on pouvait en espérer, par la paix aussi, mais également par une idée plus large que finalement, c'était le sens de l'histoire. Cette vieille idée marxiste, au fond, était recyclée, et c'était le sens de l'histoire, c'était vers là, le progrès et l'Europe marchaient ensemble. Aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant dans la situation de tous les pays européens, plus nettement en France que dans d'autres pays, mais on le voit aussi dans un pays comme le Pays-Bas, c'est que cette synonymie, en quelque sorte, progrès égale l'Europe et vice-versa, n'est plus acceptée par une bonne partie de la population. Elle vit très fortement dans une partie et elle est rejetée par une autre. Ça crée effectivement un clivage qui est un clivage qui n'est plus le clivage gauche-droite. Au fond, la gauche du gouvernement et la droite du gouvernement en France, comme dans pas mal de pays européens, je ne connais pas assez la Grande-Bretagne, les Pays-Bas pour le dire, ouais. Mais dans d'autres pays européens, c'est très net. Eh bien, ces gens-là considèrent que effectivement la mondialisation est positive et que l'Europe permet de la réguler au mieux. Et puis, il y a d'autres qui sont davantage sur des aspects identitaires et critiques. Eh bien, ce clivage-là, nous en France, on le vit actuellement. On verra si ça se concrétise au premier tour, on n'en sait rien pour l'instant, mais dans les sondages en tout cas, on a quand même deux forces qui font système, qui sont exactement l'une étant le reflet de l'autre, le reflet donc l'inverse, c'est-à-dire le Front National et Emmanuel Macron qui elles sont au-delà du clivage gauche-droite, et alors qu'on a les deux formations traditionnelles qui sont devancées. Oui, donc on participe de ce point de vue-là, de ce point de vue-là en tout cas l'Europe existe, c'est sur ce bouleversement des clivages politiques.
Jean Lelvier, directeur de la gestion chez 360 AM.
Je pense que sur l'Europe, ce qui est remis en cause finalement, c'est la marche forcée avec probablement une intégration d'un nombre de pays beaucoup trop important qui en fait a fait découler notamment la problématique des travailleurs qui pouvaient aller, notamment quand on récupère des travailleurs de l'Est qui peuvent venir dans les pays, dans les anciens pays. Je pense que c'est pas aussi important que ça, mais c'est vrai que ça pose une question dans les régions totalement désindustrialisées où les personnes n'ont plus d'emploi. Donc c'est assez normal maintenant. Est-ce qu'il faut... Va se poser une vraie question finalement, et cette question n'a pas encore été ouverte dans aucun des pays, c'est qu'est-ce qu'on doit faire de l'Europe ? Est-ce qu'on doit continuer à avancer à marche forcée ? Ou au contraire, est-ce qu'il faut faire un stop et en essayant peut-être de faire une Europe à deux vitesses qui semblerait être plutôt ce sur quoi travaille peut-être l'axe franco-allemand et peut-être même avec les Italiens. Et là, on pourra peut-être récupérer les Hollandais aussi sur cette question.
En attendant, Geert Wilders, lui, il veut mettre un stop à l'euro, la monnaie unique. Que disait-il ? Nous voulons être les patrons chez nous et avoir notre propre monnaie. Le retour au florin serait moins coûteux que de garder l'euro. Alors, il s'est basé sur une étude d'un cabinet londonien qui dit que le coût du retour au florin ne coûterait que 50 milliards d'euros contre une facture de 130 milliards pour conserver la monnaie unique. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Hendrik Klinker et puis Benaoud Abdedaïm aussi, juste après, depuis La Haye.
Oui, donc votre question...
Oui, ça vient d'où ces chiffres hein ?
Aucune idée.
Ouais. Benaoud Abdedaïm, c'est quoi ? Il se base sur quoi, Geert Wilders ?
Effectivement, c'est sur cette projection-là, mais encore une fois, comme on sent qu'on est en fin de campagne, il commence à lever le pied sur cet argumentaire en disant que ça créera de l'emploi, ça augmentera la croissance économique, mais il n'utilise plus autant que cela cet argumentaire chiffré, sachant que plusieurs des analystes ici, le choc du Brexit, vraiment frappé l'opinion publique néerlandaise et que on y réfléchira vraiment vraiment à deux fois, même si Geert Wilders arrivait au gouvernement, avant de tenter une sortie de la zone euro, voire de l'Union européenne.
Oui, Benaouda, et d'ailleurs le feu vert donné par le Parlement britannique hier, ça va avoir une incidence ou pas sur le vote des Néerlandais ?
Non, alors ce qui est vraiment aussi très étrange, c'est que c'est une campagne auto-centrée sur elle-même, sur un pays. Encore une fois, pour citer la directrice générale de l'Institut néerlandais des relations internationales, c'est comme si le reste du monde n'existait pas ces jours-ci, hormis la Turquie, pour les raisons que vous connaissez. Hormis la Turquie, on ne parle de rien, ni de l'Union européenne, ni de la défense, ni de l'OTAN, ni de la Russie, ni de la zone euro. On ne parle que des Pays-Bas et de cette crise d'identité nationale, de cohésion nationale que vit le pays.
Bon, on va se retrouver dans un instant, Ben Aoud Abdedaïm avec Eline Dany, donc depuis La Haye. On va retrouver donc eh bien nos décodeurs de l'écho, Henrik Linker, Julien Marcy, Jean-Noël Vienne, Jérôme Sainte-Marie. Alors, restera pas dans l'Union Européenne ou dans la zone euro. Tiens, vous nous rappelez la devise nationale du pays en français?
Oui, c'est en français. Je maintiendrai.
Je maintiendrai, voilà, c'est la devise des Pays-Bas. À tout de suite sur BFM Business.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, ces élections donc aux Pays-Bas, élections législatives, élections générales, les Néerlandais qui votent le mercredi, c'est donc ce mercredi 15 mars, hein, eh bien, est-ce que ce n'est pas le premier stress test donc à l'échelle de l'Europe? Oui, parce que il va y avoir la France dans un mois, il va y avoir l'Allemagne également, plus d'autres scrutins régionaux, notamment Jean-Noël Vienne nous parlait tout à l'heure de la Catalogne, hein, en fin d'année 2017, en attendant l'Italie en 2018. Bon, allez, à chaque jour suffit sa peine, on va déjà se concentrer sur 2017, ça suffit bien. Donc avec quand même, voilà, alors non pas la menace, mais en tout cas l'émergence, on verra dans un instant, et Ben Aoud Abdedaïm nous dira quels sont les derniers sondages, les dernières tendances, l'émergence quand même depuis quelques mois, depuis quelques années, de ce parti populiste, extrémiste, avec ce leader qui s'appelle Geert Wilders, qui est anti-islam principalement, hein. C'est vraiment son cheval de bataille, anti-euro, anti-Europe, anti-système. Et voilà, à tel point que les grands patrons néerlandais, il y a allez, 3-4 semaines à peu près, avaient pris la plume, hein, dans la presse néerlandaise, hein, un peu les grands patrons, un peu le CAC 40 néerlandais, ça s'appelle pas comme ça évidemment là-bas, Philips, Unilever, Shell, ING, qui avait signé une tribune contre le populisme, manifestation de l'absence de progrès. Henrik Klinkert, à la tête du business club franco-néerlandais. Mmh. Vous êtes franco-néerlandais, vous êtes un ancien dirigeant d'ABN AMRO, vous êtes à la tête de Vacor, maintenant une société de conseil aux entreprises.
Tout à fait.
Vous nous disiez tout à l'heure, il y a quand même, dans un pays quand même économique prospère,
oui.
Voilà, il ne devrait pas y avoir de vote populiste, mais malgré tout, il y a un rejet de l'élite. Est-ce que quelque part, ce n'était pas contre-productif, cet appel des grands patrons néerlandais?
Bonne question, mais je pense que les Pays-Bas, vu de l'histoire, c'est un pays où la tolérance a toujours été très importante, et ça fait partie de la culture des Néerlandais. Et je pense que ces dirigeants de grands groupes, bon, ils sont imprégnés de cette culture, et c'est aussi une question d'honneur du pays.
Donc, oui, mais d'accord. Bah alors, ouais. Ils disent le populisme est un symptôme de l'absence de progrès, mais après, très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On reconstruit comment? Qu'est-ce que vous proposez donc?
Encore une fois, tous les partis aux Pays-Bas, ils sont conscients, hein, que l'Europe, Pays-Bas, qu'il y a un problème. La base est déconnectée de l'Europe. Elle s'est dit, oui, l'Europe sert les grands intérêts des sociétés du type CAC 40. Et ce qu'on voit dans tous les programmes politiques, ce qu'ils souhaitent, c'est que l'Europe revienne vers le peuple. Donc c'est comme en France où on se plaint que l'Europe s'occupe des fromages français, aux Pays-Bas aussi les fromages français ou néerlandais, chacun sa boutique, et on souhaite pas qu'on s'occupe des choses qui sont vraiment inhérentes au pays.
Ouais. Jérôme Sainte-Marie, à la tête de son institut de sondage d'opinion, PollingVox.
Oui, je voudrais revenir sur la notion, justement, le problème identitaire tel qu'il se pose aux Pays-Bas ou dans d'autres pays. Souvent, on entend dire, c'est très curieux quand même, voilà un pays, par exemple les Pays-Bas, très ouvert sur le monde, profitant de la mondialisation, tolérant, etc. Or, il y a une espèce de pression comme ça, identitaire, qui s'exprime politiquement. C'est en fait tout à fait logique, c'est une dialectique élémentaire, c'est-à-dire que l'identité, la préoccupation identitaire n'existe que quand justement cette identité est défiée par l'ouverture sur le monde. Et quand, en quelque sorte, les gens se disent le prix à payer pour la prospérité économique peut être une espèce de dilution identitaire. Et c'est à ce moment-là qu'ils redécouvrent leur identité. S'ils restent entre eux, ben non, ils pensent à autre chose. Et donc c'est ce que l'on connaît. Et c'est pour ça que la mondialisation s'accompagne. L'accélération de la mondialisation s'accompagne très logiquement dans tous les pays, en tout cas qui sont concernés, justement par ce retour de l'identité nationale ou l'identité culturelle.
Ben Aoud Abdedaïm, toujours depuis La Haye pour BFM Business. Bon, clairement, qu'est-ce qui va se passer? Les Néerlandais vont voter demain. Premier résultat dans la nuit de mercredi à jeudi. Clairement, franchement, est-ce que il y a une chance ou un risque? Peu importe. Enfin, en tout cas, est-ce qu'il y a une probabilité que Geert Wilders se retrouve à diriger les Pays-Bas? compte tenu de son isolement. Tous les partis, vous nous l'avez expliqué, il y a un émiettement des forces politiques, une douzaine, une quinzaine de partis qui vont élire des députés. Aucun parti ne voudra travailler avec le PVV. Alors finalement, qu'est-ce qu'il y a? On joue à se faire peur?
En quelque sorte, parce que le Premier ministre Mark Rutte, imperturbablement, répète qu'il est hors de question de gouverner avec ce parti. Et finalement, l'ensemble des autres partis disent à peu près la même chose. Il est hors de question de nouer alliance, de former une coalition avec le Parti de la Liberté de Geert Wilders. Quoi qu'il en soit, cette extrême fragmentation va conduire très vraisemblablement, et là, on dit à peu près la même chose, qu'on soit de gauche, de droite ou du centre, à des négociations longues, parce qu'il va falloir former une coalition peut-être de 4, voire de 5 partis, et donc se mettre d'accord sur un programme commun, sur un contrat de coalition, ça va être extrêmement difficile. Et de ce point de vue-là, si Geert Wilders arrive en tête des élections demain soir, ça va rendre encore l'équation encore plus difficile à résoudre. Mais de ce point de vue, il va falloir, de la part des Néerlandais et de la part des Européens, beaucoup de patience avant de connaître l'issue exacte de ce scrutin de demain.
Oui, alors donc, Jean-Noël Vieille, vous qui surveillez les marchés, vous êtes directeur de la gestion chez 360XMCM. Quelque part, on nous parle de, voilà, je vais intituler cette émission, parce que ça constitue un stress test. On nous parle de risque politique, mais finalement, quoi, comme je disais à Ben Aoudan, on joue à se faire, il n'y a aucun risque que l'extrême droite prenne le pouvoir aux Pays-Bas.
Non, je pense qu'effectivement, on est probablement en train de valoriser trop ce risque politique, même si, alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer après en termes de formation de gouvernement, ça va quand même être un petit peu compliqué, mais je pense qu'on va effectivement, et les marchés d'une façon générale, vont probablement trop loin dans cette remise en cause, parce que, et puis revenons quand même aux fondamentaux là pour les marchés financiers, on est quand même dans une économie qui, quoi qu'on en dise, est en train de sortir par le haut quand même. On a des taux qui vont remonter, c'est logique, aux États-Unis aussi, même si on sait que Trump commence à avoir un problème peut-être de réalisation de son programme qui avait été plébiscité par les marchés. On voit que ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, sans dire que les choses vont... Je pense qu'on va avoir une année toujours de forte volatilité, parce qu'on aura toujours des moments d'incertitude. Mais sur le fond, je pense qu'effectivement ce risque politique est beaucoup trop pricé, comme on parle, c'est-à-dire qu'il est trop pris en compte,
voilà.
Mais en revanche, il ne faut pas rêver, la volatilité va être très forte, mais j'espère qu'à la fin de l'année, quand on sera sorti de toutes ces échéances, on reviendra vers le fondamental, et que le fondamental sera quand même un peu meilleur, parce que c'est ce que les chiffres macroéconomiques nous donnent, donc on devrait être relativement serein sur les marchés.
Julien Marcy, chef économiste de l'assureur crédit Coface.
Bon, c'est vrai que finalement la probabilité est assez faible qu'il puisse gouverner, mais même si les Pays-Bas sont un pays qui a l'habitude de former des coalitions, là on est quand même dans une situation de fragmentation extrême, et donc on peut pas non plus exclure le risque que ça dure et que ça dure indéterminée.
Il y a un pays sans gouvernement finalement pendant des semaines et voire des mois.
C'est déjà arrivé, mais on peut quand même se retrouver dans une situation où ça arrive et il y a de l'incertitude dans d'autres pays. Nous, on avait essayé notamment de quantifier ce lien entre incertitude et croissance, et ce qu'on disait, c'était que si dans un pays européen les incertitudes politiques augmentaient autant qu'au Royaume-Uni avec le Brexit, en moyenne, ça coûterait à ce pays-là un demi-point de croissance. Donc vous voyez, c'est gérable, mais c'est quand même quelque chose de significatif. Et puis la deuxième chose, c'est aussi que le point commun entre tous les scrutins de l'année dernière, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Italie, c'est que la différence entre le résultat du vote et le dernier sondage la veille, c'était en moyenne que le camp non traditionnel était sous-estimé de 4 à 5
points. C'était tout et son contraire, bien sûr.
Et donc c'est vrai que si demain on se réveille, ou plutôt après-demain, on se réveille et qu'on voit qu'il est en tête et avec une avance plus large que prévu. Alors certes, il ne pourra pas gouverner, mais ce sera quand même un signe avant-coureur avant les élections en France et en Allemagne.
Hendrik Klinkert, à moins que ça soit peut-être aussi surtout un problème d'image aussi, de voir un pays, je le disais, l'un des pays fondateurs de l'Union européenne, les Pays-Bas, finalement propulser Monsieur Wilders donc en tête, ou enfin on verra, en tout cas qui gouverne ou qui gouverne pas, finalement voilà, il va y avoir une espèce de tâche sur le pays.
Absolument. Et quand vous allez sur les réseaux sociaux néerlandais,
Vous voyez vraiment, tout le monde s'active pour faire en sorte que Wilders soit pas le PVV, soit pas le premier parti aux Pays-Bas. C'est un peu, bon, la honte entre guillemets pour le pays. Donc, et il y a les inquiétudes.
Avec quelles incidences sur l'attractivité du pays, par exemple, sur les investissements? Il y en aura ou pas?
Non. Je pense pas. Non. Je pense pas. Non. C'est un pays qui est attractif. Des gens qui ont un niveau d'éducation très élevé, des coûts, charges patronales comparées à la France
faibles.
Donc voilà.
Ben Aouda, justement, Ben Aouda Abdedaïm, oui, quel que soit le résultat, finalement, la vie continue après, c'est ça?
Oui, la vie continue, et en même temps on peut se rendre compte durant ces dernières heures de campagne combien le Parti de la Liberté de Geert Wilders est en train de fixer la ligne politique nationale. Tout à l'heure, dans une émission de radio, le chef de file des chrétiens démocrates, le CDA, a réclamé de la reine Maxima, reine consort, épouse du roi, de renoncer à sa nationalité argentine. Elle est née à Buenos Aires, elle est nationalité argentine, et il lui disait: vous ne pouvez pas avoir deux passeports. C'est quand même assez frappant de voir que finalement c'est un thème de campagne qui a été imposé par Geert Wilders et ses partisans, et qui concerne absolument l'ensemble de la société lorsqu'on va jusqu'à demander à la reine de renoncer à sa double nationalité. C'est vous dire combien l'état d'esprit dans lequel sont les électeurs et les partis néerlandais est en train vraiment d'être bouleversé, et quelle que soit l'issue du scrutin demain au Pays-Bas.
Ouais, pas de scrupules, c'est assez irrévérencieux quand même de poser ce type d'oukase.
Je fais partie de ces gens avec double nationalité.
Oui, bien sûr.
Et
oui.
Je pense qu'ils se trompent. C'est pas en enlevant une nationalité qu'on oublie ses origines. Donc, tout juste, c'est que politique.
Jérôme Sainte-Marie, quand même, c'est quoi les points communs entre le PVV, entre le FN, entre Podemos, entre UKIP, tous ces partis hors système, anti-système finalement? Jusqu'où ira cette montée des partis, allez, en marche, hors système, des partis? Alors je mets tout le monde dans le même sac,
c'est ça,
probablement. Voilà. Alors,
c'est assez contestable, parce que ils ont un point commun, c'est de refuser, plus ou moins, même si Podemos est revenu en arrière, le clivage gauche-droite. Il y a quand même une immense différence entre eux. C'est la question de la migration. La question de l'immigration est quand même quelque chose, c'est ce qui sépare, par exemple, très nettement en France, Jean-Luc Mélenchon de Marine Le Pen. Là, on a vraiment sur l'immigration, en tout cas au niveau des électorats, on a quelque chose qui scinde complètement ces forces, disons, anti-système. Le point commun, je crois, c'est un point commun européen, paradoxalement. Je crois que l'idée européenne est en train de se retourner contre elle-même. Il y a une forme d'émulation, si vous voulez, qui se fait entre les pays. Les gens ne se passionnent pas forcément pour les élections aux Pays-Bas, mais ils vont entendre quelque part que d'un pays qui a priori marche bien, un pays riche, un pays ouvert, celui qui représente un peu la tolérance, voire le laxisme des années 60-70, tout cela dans l'imaginaire français, en tout cas, eh bien...
Voilà. Personne n'y pensait. Tiens,
mais dans ce pays-là, justement, on a justement ce truc identitaire, et que même là-bas, il y a un problème avec l'islam, etc. Disent-ils, c'est pas moi qui parle. Mais toujours est-il qu'il y a ce fait que c'est sans cesse, c'est quand même une boule à facettes, en quelque sorte. Il y a sans cesse des reflets comme ça, identitaires et politiques, qui apparaissent. Et ce qui fait que ces formations-là s'encouragent mutuellement. Je crois qu'effectivement, ce qui peut se passer dans les prochaines heures, donc aux Pays-Bas, peut avoir un petit effet, quand même, d'entraînement en France.
Oui, baromètre, Jean-Noël Vieille.
Oui, peut-être pour... Je suis assez d'accord, mais pour redonner peut-être un peu d'optimisme, on est peut-être là en ce moment sur une question de timing, sur la partie la plus compliquée. On sort d'une dizaine d'années de crise assez forte, et on n'arrive pas à s'en sortir, donc c'est logique d'avoir ce type de, y compris le refus anglais, etc. Mais regardons l'Angleterre, par exemple. On voit bien qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que si on refaisait voter les Anglais, on aurait le même vote, puisqu'on s'aperçoit que la croissance britannique était plutôt bonne, commence à avoir des petits problèmes. la Banque d'Angleterre va être obligée de rester dans une politique extrêmement accommodante pour soutenir l'économie parce que ça commence à déraper, alors qu'on n'est pas encore dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'il va y avoir toutes les renégociations. Donc moi, je ne suis pas sûr que dans... Alors, c'est la vision optimiste, mais dans une année ou deux, on va peut-être renverser cette problématique, surtout si, encore une fois, on a une amélioration, si les taux de chômage, parce que ça reste quand même ça le vecteur important de l'Europe, nous avons un taux de chômage qui est beaucoup trop élevé.
Oui, Julien Marcy, pour terminer, donc chef économiste de COFAS, ces élections aux Pays-Bas, premier stress test de l'Europe, hein, est-ce que ça traduit vraiment ce risque politique sur le continent, la poussée des partis populistes? Allez, un mot chacun, allez-y Julien.
Je pense que vous avez raison, une partie du problème vient du timing, une autre partie vient du fait qu'on s'est un peu trompé d'indicateur, c'est-à-dire que certes, la croissance, le taux de chômage, c'est important, mais même dans un pays comme les Pays-Bas, justement, où en apparence tout va bien, le pouvoir d'achat des retraités a baissé, le pouvoir d'achat des salariés n'a pas augmenté depuis la crise, et c'est ça aujourd'hui qu'on va voir dans les urnes.
Ben Aoud Abdedaïm, toujours depuis La Haye, ce soir dans les décodeurs de l'écho.
Un diplomate européen nous a dit hier combien les Néerlandais finalement sont conscients du fait que ce sont eux qui ont allé ouvrir pour les Français, pour les Allemands, la voie de l'Europe cette année. Et donc peut-être qu'il y a ce sentiment de conscience qu'ils vont commencer à parler pour l'ensemble des citoyens européens. Ça sera vérifié demain lors de ce scrutin aux Pays-Bas du mercredi 15 mars.
Oui, Jérôme Sainte-Marie, Polling Vox, juste après. Allez-y, Jérôme Sainte-Marie.
Eh bien, pour l'avenir de l'Europe, je crois que si ce qui se passe aux Pays-Bas, où en fait le risque politique, et d'après ce qu'on a dit ensemble, est assez limité, si cela peut effectivement ébranler le reste de l'Europe, imaginons ce que va produire la présence probable de Marine Le Pen au second tour en France pour les autres pays européens.
Jean-Noël Vieille.
Bon, ce ne sera pas la première fois que le FN est au deuxième tour, donc ça, on va dire que c'est intégré.
Voilà. Ce ne sera pas un accident, là, cette fois-ci.
mais non, ce qu'il faut maintenant, c'est que on voit bien que c'est une question européenne, donc il faut que l'Europe arrive effectivement à faire de la relance réelle pour essayer d'améliorer la situation, sinon on s'en sortira pas.
Hendrik Klinker, ce sera le mot de la fin.
Oui, il y a des divergences de vues entre les partis politiques. Il y a les partis plus de droite qui veulent qu'il n'y ait pas de déficit budgétaire, et d'autres qui souhaitent qu'il y ait des déficits pour relancer l'économie. Donc je pense qu'à l'avenir, là, l'Europe, ce sera plutôt le souci de voir les dérapages budgétaires. En tout cas,
c'est un test, un stress test pour l'Europe, ce qui va se passer aux Pays-Bas ce mercredi.
Je pense, indirectement.
Indirectement. Merci à tous. Julien Marcy était avec nous, chef économiste pour la COFAS, hein, l'assureur crédit COFAS. Hendrik Klinker, donc, franco-néerlandais à la tête du Business Club franco-néerlandais. Il est partenaire chez Vacor. Je remercie aussi Ben Aoud Abdedaïm et Lynn Dani qui se trouvaient pour BFM Business à La Haye. Jean-Noël Vieille, directeur de la gestion chez 360XS AM. Et puis Jérôme Sainte-Marie, donc, et bien, président de PollingVox. C'est fini pour les décodeurs de l'écho, et ce mercredi soir à 19h, eh bien, rendez-vous avec Grégoire Favet, réunion très importante de la Fed, vous le savez, avec cette hausse des taux à venir, il vous expliquera tout, vous entendrez Jeannette Yellen à 19h, et évidemment les décodeurs reviendront jeudi soir.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.